un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est une école à Amsterdam qui existe depuis une quinzaine d'années et qui s'appelle Aquarion. Une institution salutaire mais un peu particulière, puisqu'elle se donne pour mission de préparer des hommes à perdre leur virginité. On pourrait dire aussi qu'elle les initie à la sexualité, qu'elle les aide à passer un cap qu'ils peuvent juger difficile à franchir ou pour lequel ils ont sérieusement besoin qu'on leur donne des bases. Ces initiations s'adressent essentiellement aux hommes que la fondatrice du lieu, Marion van der Stade, appelle en anglais les « late bloomers », qu'on peut traduire en français par « les hommes à floraison tardive ». En gros, les hommes qui ont raté le cap des découvertes de l'adolescence et sont restés sans sexualité jusqu'à plus que 30 ans. La formation se déroule en deux temps. D'abord, les hommes sont pris en charge par des coachs du sexe qui se donnent pour mission de leur donner confiance en eux-mêmes et dans leur corps. « Mon rôle, explique l'une d'elles, n'est pas d'avoir des relations sexuelles, mais de préparer les hommes à en avoir. » La première partie de l'enseignement consiste donc à se connaître, à accepter de se dénuder par exemple devant quelqu'un, à se laisser caresser. Puis viennent quelques notions simples d'anatomie féminine, des exercices théoriques et pratiques sur le corps des femmes et des bonnes bases sur le plaisir féminin. Cette première phase peut durer quelques semaines, quelques séances. Il y a plusieurs formules, c'est un peu à la carte, les tarifs ne sont pas excessifs. 90 euros de l'heure, le prix d'un psy un peu cher. Les jeunes jusqu'à 30 ans et les handicapés peuvent bénéficier de réductions à condition que leur demande soit argumentée. On peut même commencer la formation par Skype. Ensuite, lorsque l'homme à floraison tardive se sent prêt, c'est une deuxième coach qui se charge de finir son apprentissage et au final, d'avoir avec lui une première relation sexuelle. Un travail sexuel qui s'apparente, d'après les coachs, davantage à de la thérapie comportementale qu'à de la prostitution. Mais en même temps, tout dépend comment on conçoit la prostitution. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, trois autres histoires autour de cette perte de virginité ou, disons, de la première expérience sexuelle, selon la manière dont on souhaite en parler. C'est par Émilie Chaudet, vous écoutez France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
I think that type of sexual activity is disgusting.
Alors, j'ai 32 ans et j'habite en banlieue parisienne. J'ai perdu ma virginité à quelques jours de mes 26 ans. C'est à partir de 13 ou 14 ans que j'ai commencé à me rendre compte que... Enfin, j'avais des fantasmes et que je commençais à avoir du désir ou... Et du coup, ça me mettait une pression folle parce que les garçons autour de moi commençaient à, et les filles aussi commençaient à se rapprocher. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais su faire. J'étais tout le temps très, très angoissé par mon incapacité, moi, à me diriger vers l'autre de manière générale et puis vers les filles en particulier. Au collège, il me semble avoir échangé un baiser. Je crois qu'on était en voyage scolaire. Je vais avoir 13 ans, je pense, quelque chose comme ça. On était dans un bus, donc il nous amenait, alors je sais plus quelle était la destination, et les filles étaient en train de jouer à un jeu derrière nous, en fait. Et l'une d'elles, au bout d'un moment, s'est approchée pour m'embrasser. Elle s'est plantée devant moi, en fait, et s'est penchée sur moi pour m'embrasser, puis est repartie en pouffant vers ses amis. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était un gage, mais bon, c'était quand même une expérience agréable. Moi, ça m'avait beaucoup troublé, en fait, à ce moment-là. D'autant plus qu'en cage d'après, c'était de me gifler. Ça m'a beaucoup déçu. Et puis il y a eu des rires, il y a eu beaucoup de rires. C'était très humiliant. Et bien moi je me rendais pas compte à l'époque à quel point ça allait conditionner mon rapport aux femmes. J'avoue que ça m'a pas aidé ensuite à prendre sur moi et à voir l'autre en fait. Et aller essayer de draguer comme mes potes de l'époque, ça a été très laborieux, ouais. Quelques mois plus tard ensuite, en constatant que c'était si facile pour les autres, je me suis dit qu'il y avait peut-être, je sais pas, une méthode ou qu'il y avait peut-être des choses à dire ou des choses à faire. Et j'ai essayé, ouais, à quelques reprises. Alors, ça s'est jamais très bien fini. Souvent, c'était un non quasi immédiat, avant même que j'ai fini ma phrase. Ou, Et après, comme tous les adolescents du monde, beaucoup, en tout cas, j'ai fait des colos de vacances. Et il y avait les fameuses booms avec le quart d'heure américain, où j'étais toujours le dernier assis, par exemple. Ça, c'était assez frustrant. mes pauvres tentatives pour inviter des filles à danser, si ça marchait déjà, souvent c'était, j'étais très maladroit ensuite. Je marchais sur les pieds, j'étais en sueur littéralement parce que j'étais très angoissé par ce qui se passait, alors qu'en fait, enfin, c'était absolument rien, hein, c'était très innocent. Mais vraiment, ça me mettait dans un état de transe en fait, tel que je pouvais plus parler, j'étais plus moi-même quoi. Et du coup, souvent à la fin du slow, c'était un merci, puis hop, demi-tour, fatalement, ça m'empêchait d'entrer dans une démarche de séduction. Il suffisait que quelqu'un s'intéresse à moi, en fait, me montre de l'affection ou un peu de tendresse ou même un peu d'attention pour qu'immédiatement je fixe toute mon attention sur elle, en fait. Pendant toute mon adolescence, en fait, je crois que j'étais amoureux de dizaines et dizaines de filles, ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle la friendzone. Je pense que j'ai été friendzoné pas mal de fois, ouais. Du coup, en fait, pendant de très longs mois, souvent j'étais ami avec une fille, en fait, dont j'étais absolument amoureux, quoi, fou amoureux. Et... c'était un déchirement quand elle me parlait très innocemment de leur relation ou de leur rupture ou même parfois de leur rapport sexuel. Ouais, c'était quelque chose de très frustrant pour moi. Et du coup, pendant très longtemps, en fait, j'ai considéré que j'avais fait ce que j'avais à faire et que c'était pas définitivement pas pour moi. Et je me sentais vide, en fait, vraiment inexistant. Donc c'était ouais, vraiment une sensation de tristesse infinie et surtout, au-delà de ça, la frustration, vraiment, c'était qui était presque douloureuse, quoi. La première déception amoureuse que la plupart des gens surmontent, j'ai eu du mal à la surmonter. Les échecs, ouais, c'était très compliqué pour moi de me remettre à chaque fois. Et en fait, ça me demandait à chaque fois tellement plus d'efforts qu'à un moment, c'est plus facile de laisser tomber et de ne plus investir, en fait. Ça va être cruel, mais pour moi, les relations sexuelles, c'était le porno, quoi. Et les relations amoureuses, c'était les comédies romantiques. Et ouais, j'en ai consommé pas mal, ouais. En matière d'éducation, moi, c'est tout ce que j'ai eu, ouais, d'éducation sexuelle et romantique. Et bon, du coup, ça a donné lieu à pas mal de désillusions, ouais, sur le long terme, après, dans les relations qu'on suivit, en fait. Ça s'est étalé du lycée jusqu'à ma première année d'études, ouais, à peu près, deuxième année d'études. Au début de mes 25 ans, je venais juste de les avoir, en fait, j'ai quitté la maison de mes parents, en fait. Je me suis installé dans un studio, et... là, ça a été très difficile, en fait. J'étais seul, quoi. J'étais littéralement seul. Ça me plongeait dans un état de blues, mais très profond, très intense. Après de longs mois, vraiment, à rester seul chez moi et à rien faire d'autre que jouer à la console, j'ai décidé de m'inscrire sur des sites de rencontres. Parce que j'avais abandonné l'idée d'une rencontre amoureuse telle qu'on les conçoit... de l'évidence, du coup de foudre. C'était... Je pense que... J'y croyais plus trop. Pour moi, c'était un moyen aussi de me protéger, ouais. Si ça passait pas, bah, je passais au profil suivant, et ainsi de suite. Après quelques mois, en fait, sur ces sites de rencontres, où l'apprentissage était, ouais, pas mal douloureux, hein. Faut se faire une place sur les sites de rencontres. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes pour assez peu de femmes, j'ai l'impression. Déjà, le profil, moi, la création de mon profil, ça a été chaud. Il a fallu que je trouve les bonnes photos, les bons mots. Et puis je me trouvais vraiment laid, quoi. J'étais pas séduisant, j'étais vraiment trop gros, quoi. Je me laissais beaucoup aller. Et voilà, j'ai eu une prise de conscience. Et je me rendais compte que c'était plus possible, quoi, qu'il fallait que je maigrisse. Du coup, j'ai commencé à perdre un peu de poids et à faire un peu plus attention à moi. Et j'ai fait la rencontre d'une jeune femme qui habitait en province aussi. C'était la première qui m'adressait la parole naturellement et avec qui c'était agréable de parler parce que vraiment j'avais chanté qu'il y avait un échange, qu'elle n'était pas en train de répondre à un de ses messages parmi la centaine qu'elle recevait. Alors ça n'a pas été le coup de foudre, hein, du coup. C'est pas ce que je recherchais, du coup j'avais cessé d'y croire et bon, du coup à ce niveau-là j'ai pas été déçu, mais on s'est parlé pendant 2 ou 3 mois, c'était souvent des conversations très longues qui duraient jusqu'au bout de la nuit. En fait, à un moment, je me connectais pas simplement pour séduire qui que ce soit ou pour la séduire elle, mais juste parce que, en fait, j'avais besoin de lui parler, et en retour, elle avait besoin de me parler aussi, et comme ça, on a commencé à créer une relation, disons, intime, ouais. Au bout de quelques semaines de conversation, en fait, elle m'a demandé si elle pouvait venir à la maison. Et ça a été... Ça a été compliqué, je crois que j'ai failli dire non jusqu'au bout en fait, c'était oui, non, enfin, elle avait déjà pris ses billets en plus, donc c'était, enfin, je pouvais pas refuser, sinon c'était fini, je la perdais définitivement en fait. Et jusqu'au matin du jour où elle est arrivée chez moi en fait, ça a été une angoisse absolument permanente quoi. Alors j'étais mi-angoissé, mi-excité, c'était J'avais des pics comme ça d'excitation, des pics de dépression. Enfin, c'était monstrueux à vivre, ouais. Alors le matin, déjà au réveil, j'avais pas du tout envie de me lever, j'avais envie de rester sous ma couette parce que vraiment, c'était... je me disais comment j'allais pouvoir l'affronter elle en fait, c'est comment j'allais pouvoir affronter tout ça. Est-ce qu'on allait être aussi complices, est-ce qu'on allait vivre la même expérience que lorsqu'on était en ligne en fait, ou même au téléphone, parce qu'après on a fini par se parler au téléphone. J'avais très peur qu'en fait on arrive l'un face à l'autre et qu'on soit, elle ou moi, hein, qu'on soit très déçus par ce qu'on voyait. J'avais peur aussi, pareil, de moi, de pas être à la hauteur aussi de ce que je lui avais plus ou moins promis en fait, implicitement. Comme je l'avais été en ligne, en fait, parce que c'est plus facile. On a un peu de temps pour choisir ses réponses. C'est cool avec Internet, parce que quand elle me parle d'un truc que je connais pas forcément, il suffit que j'aille googler ça dans la seconde pour pouvoir me montrer pertinent ou lui montrer que je connais quelque chose, alors qu'en fait, quelques secondes avant, je l'ignorais totalement. Ça m'effrayait, en fait, qu'elle se rende compte de la supercherie. J'ai quitté le boulot et j'étais la chercher, donc, à la gare à Paris. Et ouais, je crois que j'ai passé la demi-heure la plus stressante de ma vie, ouais. Enfin, j'étais en train de me regarder dans le miroir toutes les deux secondes, voir si j'étais bien habillé, si j'étais bien coiffé. Je me demandais, est-ce qu'il va pas y avoir trop de blanc ? Et elle arrivait. Elle était toute petite. Elle m'a beaucoup marqué. Mais elle était très belle aussi. On s'est regardé comme ça deux secondes, et bon, bah, la bise alors. On a pris le métro pour retourner chez moi. Et ça a été une demi-heure de malaise total. De mon côté et du sien. Donc on n'a pas su quoi se dire, on s'est à peine regardé. Donc on arrivait chez moi déjà, je pense que la vue du studio l'a pas mal effrayé aussi, parce que j'habitais une chambre de bonne à l'époque qui n'était pas très belle. J'avais fait le ménage, hein, j'avais fait un ménage monstrueux, d'ailleurs je crois que c'est la dernière fois que j'ai fait autant de ménage. On a mangé un petit peu, j'avais fait des carbonara qu'on cramait, c'était un désastre. On a bu une ou deux bières et l'alcool aidant, ça allait un peu mieux. Et on s'est mis à discuter et à se rendre compte que non, en fait c'était exactement... Enfin, on a retrouvé cette complicité qu'on avait avant sur le net, en fait. Et est venu le moment de se coucher. Elle est partie changer dans les toilettes sur le palier. Parce que j'ai les toilettes sur le palier, en fait. Elle est revenue, j'étais déjà sous la couette, parce que, évidemment, j'avais horreur de mon corps. J'étais en caleçon sous la couette, je l'attendais comme ça, juste la lumière de chevet allumée. Elle s'est couchée à côté de moi, on a éteint la lumière, on a discuté un peu. Et voilà. Il y a un long silence qui s'installe. Et du coup, à un moment, je lui ai demandé si j'avais la permission de l'embrasser. Bon, elle a accepté et on s'est embrassé. C'était mon premier baiser véritable, en fait. Bon, c'était humide, quoi. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Alors, ça n'a pas été la déception, mais je me suis dit, voilà, tout ça pour ça. Puis après, très rapidement, on est passé... On a fini par coucher ensemble. C'était pas fameux. C'était pas fameux, ouais. C'était catastrophique parce que déjà, effectivement, je me retrouvais face à un corps, le corps d'une femme, en fait, un corps humain. J'étais à 5 jours de mes 26 ans. Je pense que j'ai jamais été aussi maladroit de ma vie, ouais. Limite, si je lui ai pas tiré les cheveux, si je lui ai pas fait des bleus... C'était très difficile, je savais pas où me mettre, je savais pas comment m'installer, je savais pas comment l'installer elle pour qu'elle soit bien installée. C'était dans le noir total, du coup je voyais pas grand chose, du coup en plus voilà, l'anatomie féminine c'était... Bon, je connaissais vaguement, hein, j'avais une vague idée de ce que c'était, mais tout était plus ou moins à sa place, ça va, c'est juste que moi j'étais perdu quoi, je savais pas comment, du coup elle m'a beaucoup aidé, elle m'a guidé en fait. C'était pas fabuleux, quoi. C'était pas génial. Mais pour moi, c'était un cap de franchi, ouais. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, j'avoue. Ça a été... Je crois que j'ai gardé les yeux ouverts très longtemps dans la nuit. J'avais mal partout. Après, ouais, on s'est endormi dans un silence un peu bizarre. Le lendemain matin, au réveil, on a recommencé et... Mais c'était, disons, moins gênant. Là, enfin, on a réussi à avoir un orgasme l'un et l'autre. C'était cool.
France Culture, les pieds sur terre.
J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans. Elle est morte d'une cirrhose du foie. Mon père s'est remarié, j'ai une belle-mère. Et la belle-mère, elle nous a pris pour des esclaves. Je faisais le ménage, je m'occupais des gosses, je faisais la lessive. Je sortais pas, j'avais pas le droit de sortir. J'ai arrêté l'école à 16 ans. À 16 ans, c'est là où, déjà quand je suis devenue jeune fille, ma belle-mère me disait « Ah ouais, si tu regardes un garçon, tu vas tomber enceinte. » Déjà elle-même, elle savait même pas ce que c'était la sexualité. Donc si déjà elle-même, elle le sait pas, comment voulez-vous que moi, elle me prépare ? Jusqu'au jour où j'atteins une majorité 18-21, à 21 ans, j'étais partie assister à un mariage, puis il y a quelqu'un qui m'a vu en mariage. Nous, dans le temps, les mariages, que ce soit voisins ou famille, on y allait. Puis ce monsieur-là, il venait de loin, apparemment, il venait de Paris. Il m'a vu au mariage. Puis après, quand il m'a vu, il s'est renseigné qui j'étais. Une semaine, 15 jours après, il venait me demander un mariage, puis je ne le voulais pas. J'en avais 21, lui en avait 48. Puis comme c'était ma belle-mère qui dirigeait, donc on n'avait pas le choix. Quand il est venu me demander un mariage, je prenais le plateau, je ramenais le café, je ramenais ce qu'il fallait ramener. Il m'a vu, il m'avait déjà vu au mariage. Lui, il dit, c'est elle que je veux, c'est elle que je veux. Après, je me suis dit, c'est un vieux, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je lui dis. Puis après, j'ai fait marche arrière. Je me suis dit, je vais me marier, peut-être qu'après, j'aurai ma liberté. Moi, mon but au départ, c'était de me marier et après de partir. On s'est parlé une fois avant le mariage. Je me dis, ouais, moi, je veux une fille de maison, je veux quelqu'un de sérieux. On m'a dit que tu étais sérieuse, que tu savais faire à manger, tu savais faire tout et tout. Je dis, bah écoute, je lui dis, on verra. J'étais vierge quand je me suis mariée avec lui. La nuit de noces, ça a été un calvaire. Je voulais pas. Je vais faire ça avec un vieux. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sensation. Il n'y aura rien. Je ne suis pas préparée. Honnêtement, c'était une douleur intérieure parce que je me suis dit, ce n'était pas le bon. Mais pour moi, c'était un échappatoire. Le soir même, on est parti. Quand on est arrivé à la maison, c'était... J'ai fermé les yeux, en fait. Je voulais pas qu'il me touche au départ, parce que c'était pas facile. C'est vrai que j'étais tendue, hein. Mais pour moi, ça a été une mauvaise nuit. Parce que je l'ai fait avec une personne que j'aimais pas. Quand on a envie de faire ça, on a envie de le faire avec une personne que l'on aime. Comme toutes les jeunes filles, je me suis dit, j'espère que je vais rencontrer le prince charmant, que ça va bien se passer. Et puis, je me suis dit, comme dans les contes de fées, comme on voit dans les films, comme on voit le romantisme et tout. Mais là, ça n'a pas été le cas du tout. Je me suis déshabillée, j'ai mis une chemise de nuit. Il m'a dit « Non, c'est pas comme ça. » Je lui ai dit « Dépêche-toi. » C'est parce que mais j'étais tendue, j'étais crispée, j'avais peur. Franchement, j'ai eu mal. Ça doit se faire avec délicatesse. On aurait dit « Je sais pas moi. » C'était brutal. Je lui ai dit « J'ai pas envie de que ça dure plus longtemps. » Puis après, ça a été tout. Ça a duré même pas une demi-heure. J'ai saigné sur un drap et puis je l'ai mis de côté. Puis après, je l'ai ramené à ma belle-mère. Parce qu'elle voulait savoir si j'étais vierge ou pas. On me rappelle qu'avant d'aller se marier, il fallait qu'on passe chez un gynéco, faire un certificat médical de quoi qu'on était vierge, qu'on n'a jamais eu de rapport. Donc il fallait qu'on le fasse, ce certificat. On l'a fait une semaine avant le mariage. Et ça a été l'horreur. Après, on s'est séparés. Je suis revenue par ici. Je cherchais du travail. Au départ, j'avais trouvé dans un petit café-restaurant. Il y avait une chambre à Roubaix. Je suis partie m'installer là-bas. De fil en aiguille, j'ai travaillé. Puis c'était la soirée du Noël. C'était un samedi. Un groupe d'hommes arrive, viennent boire un verre. Lui, il a ouvert la porte, moi j'étais au comptoir. Nos regards se sont figés. J'ai eu le coup de foudre, comme lui, comme moi. Mais je veux dire que quand je l'ai rencontré au début, on a discuté et tout, on a parlé pendant un bon moment. Après, il me dit, bah, écoute, tu fais quoi ? Je lui ai dit, écoute, c'est quel jour que tu ne travailles pas ? Je ne travaille pas le mercredi. Il me dit, bah, si tu veux, on peut se revoir. On s'est revus. Je l'ai rencontré en février. Notre première relation, elle a eu lieu en juillet. Ça a été très, très long. J'ai pas eu peur. Il y avait de la tendresse, il y avait les mots, il y avait... Je me suis dit, ça, c'est une belle relation. Puis c'était quelqu'un qui était tellement doux. Alors, j'ai découvert le plaisir avec lui, la sensualité, la délicatesse. Pourquoi ? Je me suis dit, ma nuit de noces, elle a pas été la même chose. Je l'ai vécu 20 ans plus tard. Puis c'était un bel homme. Je vous dis, il m'aurait dit d'aller décrocher la lune, j'aurais été décrocher la lune. Tellement que c'était tellement bien, tellement que c'était tellement beau. Et ça a duré pendant 14 ans. Et après, du jour au lendemain, plus rien. Ça me manque énormément. Cet amour-là était tellement intense que je ne peux pas le remplacer. Ça va faire 5 ans qu'il est parti. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai tellement aimé que Je peux plus, j'arriverai plus à aimer quelqu'un. Je peux plus. J'ai essayé, mais j'arrive pas.
J'avais décidé que je ferais pas l'amour avant d'avoir 15 ans. Je sais pas pourquoi j'avais pris cette décision et j'ai eu 15 ans le 30 mai 99 et je partais à peu près 3 semaines en colonie de vacances et après tout le reste de l'été j'étais dans la Creuse et il y a deux grosses familles, ma famille et la famille de cette fille qui habite de l'autre côté du village quoi. C'était une amie d'enfance, on se connaissait depuis tout petit puis on avait plutôt l'habitude de se chamailler quoi. Je pense qu'il y avait une tension sexuelle adolescente qu'on maîtrisait pas. Et du coup, moi, j'avais très envie d'elle et j'avais très envie de coucher avec elle. Et du coup, ma réponse à ça, c'était de la pousser dans l'eau dès que je pouvais, quand on allait à la rivière, de pas être sympa avec elle. Enfin voilà, je pense que c'était une réaction d'ado qui veut pas montrer qu'il est amoureux, quoi. Cet été-là, on a eu une conversation et moi, je lui ai dit que j'avais jamais couché avec une fille. Et je lui ai dit que j'aimerais coucher avec une fille et que j'aimerais que ce soit cet été. Et je pense que je lui ai donné toutes les informations. Et ce qui a fait qu'un soir, elle m'a dit, bah, on n'a qu'à se voir ce soir. Et du coup, j'ai débarqué chez ses grands-parents. Elle avait laissé une clé à l'extérieur, sous une pierre. Et j'étais passé par la grange. J'avais traversé cette grange. Il y avait un petit couloir qui menait de la grange à la maison. J'étais rentré dans la maison par là. Et après, il y avait des escaliers qui montaient au deuxième étage. Et je sais que je passais devant plein de portes, qui étaient la porte où il y avait son petit frère, son père et sa mère, ses grands-parents. Enfin voilà, je passais devant toutes ces portes-là avec un frisson total de me dire « je vais me faire griller ». Et surtout que ça tremble, ça grinçait de partout comme les vieilles maisons. Je suis arrivé à tâtons, j'ai fait toc-toc, je suis rentré dans sa chambre. Elle m'a accueilli et moi, j'avais trouvé le moyen de me procurer, via des copains, j'avais des capotes sur moi. À l'époque, on piquait tous un peu des préservatifs en étant 99, donc nous, on avait en permanence des préventions sida à l'école. Et là, il y en avait qui étaient distribués partout. Du coup, nous, on en volait, puis on faisait plus des bombes à eau que s'en servir. Je me rappelle très bien m'être dit, j'en prends parce que ça va m'arriver cet été, quoi. Et donc, je suis rentré dans la chambre et je sais que j'avais les capotes dans la poche. Et je lui ai dit, bah voilà, je suis là, je suis prêt, tout ça. Et elle m'a dit, ah, mais si t'es venu pour coucher avec moi, vraiment, c'est pas ce soir, quoi, laisse tomber. Du coup, choc émotionnel. J'ai dû rester à parler avec elle de tout et de rien pendant 10 minutes. Et je suis parti. J'ai pas du tout insisté. J'étais tellement terrorisé à l'idée de faire l'amour que j'ai pas du tout insisté. Et les jours qui ont suivi, je sais que elle a commencé à me dire ce serait bien qu'on se voit un soir. Et donc je me suis dit bon, la porte est à nouveau ouverte. Et moi j'avais dit à mes parents et à mes grands-parents, je leur ai dit je dors dans la tente devant la maison. Et donc on a mis en place un code. Je lui avais dit dès que je suis libre et que mes grands-parents et mes parents ont fermé leur volet, je te fais des signes avec une lampe de poche. Donc j'attends que mes grands-parents ferment les volets, que mes parents ferment les volets. Et je savais qu'elle était de l'autre côté de la maison, mais elle a dû attendre peut-être une heure ou une heure et demie, quoi. Là, je lui ai fait des appels de phare. Elle est arrivée, elle est venue dans la tente. Et là, on a commencé à se faire des bisous, à se déshabiller. Je tremblais comme rarement j'ai tremblé dans ma vie. Et il y a eu ce moment fou où je l'ai regardé et je lui ai dit « je mets le préservatif ». Mais pas du tout comme une question, comme une affirmation. Genre « mais je voudrais te prévenir que je suis en train de mettre le préservatif ». Et elle était vraiment complètement détendue, quoi. Très calme, très souriante. Voilà, quoi. Et moi, j'étais terrorisé, quoi. Je savais pas du tout comment faire, quoi. Moi, j'avais 15 ans, elle avait 17 ans et elle, ça faisait déjà 3-4 ans qu'elle couchait avec des garçons. Elle parlait pas du tout. Elle m'a juste dit, parce que moi je lui ai proposé de lui faire un cunnilingus. Et elle m'a dit qu'elle aimait pas ça. Voilà, je me souviens de ça parce que je m'étais dit que ce serait bien de commencer par ça, comme si je m'étais fait une feuille de route. Donc je me suis mis sur elle et puis j'ai pas bougé plus que ça. Et je me rappelle que c'est elle qui a guidé tout en fait. C'est elle qui a guidé tout et moi j'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue quoi. Et je pense que j'ai joui, j'ai dormi. Donc le matin, elle, très tôt, elle est partie. En fait, elle est rentrée chez ses grands-parents. Je me souviens que ça m'a pas plu qu'elle s'en aille. J'avais pas envie qu'elle parte le matin. On s'est vu un soir sur deux à peu près jusqu'à la fin des vacances. C'était la tristesse infinie que ce soit la fin des vacances. Mon père, il m'avait dit, la première fois où tu fais l'amour avec une fille, je te filerai une bouteille de champagne. Et je me suis levé le matin, il y avait une bouteille de champagne devant ma tante. J'ai beaucoup ri, même s'il y a des gens qui pourront trouver ça un peu intrusif. Moi, j'ai beaucoup ri parce que je me suis dit qu'en fait, mes parents, ils avaient grillé le truc. Et qu'en fait, on était complètement fermés dans la tente. Donc, il n'y a pas eu de possibilité qu'ils voient quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils ont vu Charlotte rentrer dans la tente. À partir de ce moment-là, je ne suis plus du tout retourné dans cette maison de campagne de mes grands-parents pendant 3-4 ans. Et quand j'y suis retourné, elle n'était pas là. Mais en fait, je ne l'ai pas croisée pendant près de 10 ans derrière ça. Et 10 ans après, je l'ai recroisée, elle avait un enfant. Et aujourd'hui, elle a 3 enfants. Et on se croise et cette année, on a passé les vacances avec ma fille et ses 3 enfants.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux.
Aujourd'hui encore, c'était Les pieds sur terre, perdre sa virginité, un reportage d'Émilie Chaudet, réalisé par Clémence Grosse. Merci à Martin, à Véronique Seyé du planning familial, à Farida Abdelhadi, ainsi qu'à Anifa Aïssaoui de l'association Espace Santé de Lille. Je vous signale également que dans l'émission de France Culture LSD, il y a une très belle série qui s'appelle Le sexe comme objet de Delphine Saltel. Je vous recommande vivement de l'écouter pour en savoir plus sur ce sujet, notamment le 4e épisode qui traite de l'éducation sexuelle au lycée. Sandrine Chapon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre et Céline Autin, c'est notre stagiaire.
Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux.